Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
On n'est pas surpris, mais déçus, c'est sûr. Il y a toujours des personnes qui ont que cette option-là, prendre les trains ou les métros.
Vous allez faire quoi, alors ?
Ah ben, je sais pas.
Et c'est la grande question. Les contours d'un jeudi noir se dessinent dans toute la France. 90% des trains annulés, annonce la SNCF. Très peu de TER à Paris. 11 lignes de métro fermées.
Tous les détails des prévisions dès ce début de journal. Et nous serons notamment Gare Saint-Lazare.
Les enseignants aussi sonnent la mobilisation. 4 écoles sur 10 devraient rester fermées malgré les promesses du ministre Jean-Michel Blanquer.
Cette réforme pourrait avoir des effets négatifs sur la retraite des professeurs, mais nous sommes engagés à ce que ça ne soit pas le cas.
Le risque d'une pénurie d'essence semble s'éloigner. Un seul dépôt pétrolier reste bloqué dans l'Ouest.
Dans ce journal également, le climat scolaire en question. Trop difficile de se concentrer en classe. C'est l'une des raisons de la stagnation de la France au classement international PISA.
Et puis le face-à-face Trump-Macron à l'OTAN s'est étendu.
Et puis Bernard Pivot, tire sa révérence. Il quitte l'Académie Goncourt.
Je laisse la place à quelqu'un de plus jeune que moi. De beaucoup plus jeune que moi, je l'espère.
À presque 85 ans, il veut retrouver du temps libre. La bourse de Paris, à nouveau en repli ce soir, moins 1% à 5 727 points.
Et Anissa, la tendance météo, c'est avec vous. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Quelques nuages demain, mais la journée sera globalement placée sous le soleil avec des températures qui continuent de baisser. Tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
C'est un plan de transport ultra restreint que la SNCF a annoncé aujourd'hui à 2 jours d'un jeudi noir. Ce 5 décembre, 90% des trains seront tout simplement annulés. On va faire le tour des prévisions de façon très précise avec vous, Aurélien Fleureau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous depuis le siège de la SNCF. Un train sur 10, donc seulement en moyenne.
Oui, plan de transport à minima annoncé par la SNCF, une mobilisation massive des cheminots, plus forte qu'en 2018 ou 2014, hein, pour ne comparer qu'avec les grèves les plus récentes. Alors dans le détail, eh bien, cela va donner un TGV sur 10 en moyenne. Ce sera un peu mieux aller sur l'axe nord entre Paris et Lille avec 1 sur 6. 1 sur 6, ce sont également les prévisions de circulation pour les TGV Ouigo. Sur le réseau intercité, là ce sera également un train sur 10 avec par exemple un seul aller-retour entre Paris et Clermont. Et absolument rien entre Nantes et Bordeaux ou encore sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg. Côté TER, c'est encore pire, 3% de trains en circulation, même si des bus de substitution sont prévus sur certaines lignes. Alors là, il faut directement se renseigner sur les sites régionaux des TER ou directement en gare quand vous le pouvez. Et puis en Ile-de-France, même constat, un transilien sur 10. Alors c'est très disparate selon les lignes. Tous les horaires se trouvent sur le site ou sur l'application mobile de la SNCF.
Aurélien, et du côté de la RATP, trafic très très limité également, hein.
Oui, et c'est même encore pire que le vendredi noir, le 13 septembre dernier. 11 lignes de métro fermées. Un service minimum sera tout de même assuré aux heures de pointe sur les lignes 4, 7 et 9, ainsi que sur les RER A et B. Pour les trams et les bus, ce sera 1 sur 3 en moyenne. Mais en tout cas, voilà, on est fixé pour le jeudi 5. Et pour la suite, c'est évident, les deux entreprises se préparent déjà à une mobilisation qui va durer.
Aurélien Fleureau en direct depuis le siège de la SNCF, donc des prévisions qui valent pour jeudi. On saura ensuite la suite au fur et à mesure des jours qui viennent. On le comprend et comme on s'y attendait, il sera particulièrement difficile de se déplacer, notamment en Ile-de-France.
Et nous sommes ce soir à Gare Saint-Lazare avec Justin Morin, bonsoir.
Bonsoir.
Saint-Lazare, c'est plus de 300 000 voyageurs quotidiens, chacun cherche finalement une solution à l'heure qu'il est.
Oui, effectivement, et je rebondis sur ce que disait Sébastien. Même si les usagers, effectivement, s'attendaient vraiment ici à des prévisions très très difficiles, mais ils n'ont pas manqué de se renseigner sur leur téléphone portable une fois que l'information est tombée. Imène, par exemple, elle sort du train, enchaîne avec un métro sur le trajet. Elle a pu vérifier, la ligne L qu'elle emprunte tous les jours sera quasiment inexistante.
On n'est pas surpris, mais déçus, c'est sûr. Il y a toujours des personnes qui ont que cette option-là, prendre les trains ou les métros.
Vous allez faire quoi alors ?
Ah ben je sais pas, moi je suis étudiante et je travaille, je sais pas comment je vais faire. On espère déjà que ça soit que jeudi et vendredi et ça va pas s'allonger.
Voilà, c'est vrai que c'est vraiment la principale interrogation. Autant pour jeudi, ce sera télétravail ou la journée a été posée pour éviter la galère. Même les employés des magasins de la gare Saint-Lazare s'attendent à une journée bien terne, tous ne viendront pas. Mais le problème, excusez-moi, c'est la suite, selon Chantal et Liliane, venues passer quelques jours à Paris.
Je pense que on va y aller là, dans le mur, comme en 95. Ben moi, c'est ma crainte. Et puis pour nous après, bien sûr, ça va être les fêtes de fin d'année, ça va encore nous mettre dans des situations pas possibles.
Une journée de revendication, et ça s'arrête, bon, on s'organise. Mais si ça s'éternise dans le temps, ça va être compliqué.
À noter, parmi les prévisions des intercités qui circuleront bien Garcin-Lazare, la SNCF ne prévoit que 2 allers-retours pour toute la journée sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre.
Justin Morin en direct de la gare Saint-Lazare à Paris. Les aéroports, eux, devraient être moins touchés. La Direction Générale de l'Aviation Civile annonce que 80% du trafic sera maintenu. Air France annule 30% de ses vols domestiques et 15% de ses moyens courriers.
Et ce n'est pas tout. En plus des transports paralysés, beaucoup de parents doivent trouver un mode de garde pour leurs enfants car de très nombreuses écoles vont rester fermées jeudi.
70% des enseignants en grève dans le primaire, annonce le principal syndicat, le SNUIPP, et pas toujours de service minimum possible, faute d'agents de la commune pour prendre en charge les enfants. Du coup, presque la moitié des écoles, hein, 40%, vont rester fermées.
Et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, répond déjà aux grévistes. Il leur promet des garanties sur le niveau de retraite des enseignants. Écoutez.
Cette réforme pourrait, et je parle au conditionnel, avoir des effets négatifs sur la retraite des professeurs, mais le président de la République lui-même et le Premier ministre, et moi-même bien entendu, nous sommes engagés à ce que ça ne soit pas le cas. Donc ce message doit être entendu très clairement. Quand je vois par exemple des simulateurs qui circulent pour essayer de faire croire qu'il y aura une baisse des pensions, ça n'est pas sérieux parce qu'en réalité, nous garantissons justement qu'il n'y aura pas cette baisse des pensions. Et comment est-ce que nous le garantissons? C'est en travaillant sur la rémunération. Nous parlons là de générations dont on va déterminer au cours des prochains temps, c'est le Premier ministre qui s'exprimera là-dessus, quelles générations sont concernées, donc par définition les plus jeunes. Mais c'est précisément ceux-là qui ont besoin d'une amélioration de leur rémunération. Et donc c'est cela que nous allons planifier.
Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, au micro de Virginie Riva.
Et on va en reparler dans le détail à 18h20, dans 12 minutes, avec mon invité Françoise Popineau, secrétaire générale du SNUIPP-FSU, premier syndicat des enseignants du primaire. On fera aussi un point global avec Emmanuel Dutheil dans les grandes voies sur les transports, les écoles, mais aussi le secteur privé.
Enfin, s'agissant des manifestations qui sont prévues jeudi, compte tenu des inquiétudes sur la sécurité, la préfecture de police de Paris a ordonné la fermeture de tous les commerces situé sur le trajet du cortège de la gare de l'Est jusqu'à la place de la Nation. Les syndicats promettent de renforcer leur service d'ordre.
Il est 18h07 sur Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Regardons de près également ces inquiétudes ce soir des automobilistes dans l'Ouest après le blocage de plusieurs dépôts pétroliers. Une bonne nouvelle ce soir, le risque de pénurie, Sébastien, s'éloigne.
Il y avait encore ce matin 5 dépôts pétroliers bloqués. Celui de Rennes a été débloqué par la police. Sur d'autres sites, les mouvements ont été levés par les entrepreneurs du BTP qui protestent contre la perte d'un avantage fiscal lié au gazole non routier. Il ne reste donc ce soir qu'un seul point de blocage à Lorient où vous vous trouvez, François Coulon. Et où les artisans, en revanche, là, pour l'instant, ne semblent pas désarmés.
Effectivement, 70 engins de chantier bloquent toujours ce dépôt lorientais tenu par le plus déterminé des patrons du BTP breton. Norbert Guillou n'en démord pas. Seule une invitation du Premier ministre pourra le convaincre de lever le camp.
Nous, on ne partira pas tant qu'on n'aura pas eu le rendez-vous avec Édouard Philippe et que la loi soit votée après le rendez-vous.
Vous craignez pas, là, que les CRS arrivent avec leur grue?
C'est vrai que depuis 2 jours, ils nous ont vraiment pris pour des moins que rien et ça, on ne supporte pas.
Tous les barrages ont été levés, il ne reste plus que celui-là. Vous n'avez pas l'impression que vous faites un combat de trop?
La bataille n'est pas terminée, on ne va pas s'arrêter là. Je veux dire, on est de nouveau dans la rue.
Mais là, peut-être que les CRS vont lever votre blocus.
Bah, ils ont le droit de venir, on est là.
Ça risque de pas bien se passer.
On est là, on est outillés aussi. Pour le moment, on est là.
Vous allez faire de la résistance?
Non, on ne fera pas de résistance. Non, non, on n'est pas là pour casser.
Voilà un jusqu'au boutisme plutôt symbolique qui ne masque pas un sentiment d'échec. Après 5 jours de blocage, les artisans demandaient un délai de 5 ans pour encaisser le choc de la suppression du gazole détaxé. Le gouvernement est resté inflexible. Le couperet tombera dès 2022.
François Coulon en ligne de Lorient pour Europe 1.
On en vient à la profanation de ce cimetière juif en Alsace. Des inscriptions antisémites ont été retrouvées sur 107 tombes. Ça s'est passé à Westhoffen, dans le Bas-Rhin.
Proche de Strasbourg, et des tags avaient déjà été découverts ce matin à 20 kilomètres de là. Nous serons sur place dans le journal de 19h. Et puis on l'apprend ce soir, un ingénieur français travaillant pour le groupe Thales a été tué par balle en pleine rue à Bogota, en Colombie. Ça s'est passé dans un quartier huppé. Le tireur l'a semble-t-il visé avant de prendre la fuite. Cet ingénieur de 45 ans était en mission sur place en Colombie.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Un mauvais climat scolaire dans les classes françaises, c'est en tout cas ce que pointe l'OCDE, le niveau des élèves français. Nos élèves stagnent dans le classement PISA, c'est à suivre.
Et puis Bernard Pivot quitte l'Académie Goncourt.
Vous écoutez Nathalie Lévy, votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite du journal sur Europe 1, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
21e au classement, on pourrait qualifier cette position de médiocre. En tout cas, la France stagne dans le classement international PISA qui mesure le niveau scolaire.
Oui, c'est la Chine et Singapour qui tiennent la tête de cette grande enquête internationale qui évalue les élèves de 15 ans dans les pays de l'OCDE. La France en milieu de classement avec toujours un gros point noir. Le système scolaire ne parvient pas à gommer les inégalités sociales.
Et l'OCDE pointe un autre aspect, un mauvais climat à l'école, Yasmina Katou. Il est trop difficile de se concentrer dans les classes, c'est ça ?
Effectivement, plusieurs raisons expliquent ce problème de discipline dans les classes. Selon l'étude PISA, 6 élèves sur 10 ressentent un manque de soutien de la part de leurs professeurs. Plus d'un élève français sur 3 regrette un manque d'aide des enseignants. L'absence d'autorité des profs est aussi pointée du doigt. Mais le problème dont se plaignent le plus souvent les élèves, c'est le bruit en cours.
Ça perturbe les élèves, mais c'est aussi au niveau du professeur qui, du coup, il se consacre essentiellement sur le problème des bavardages et moins sur le cours lui-même.
On n'entend pas beaucoup ce que la prof dit. On termine à l'heure de classe et on a fait un quart dans ce qu'on était supposé de faire.
Les profs, ils ne cherchent pas forcément à faire comprendre la classe. Ils se disent « la classe en général est dissipée, donc j'abandonne, ils se débrouillent, quoi ».
La France est l'un des pays où il y a le plus de perturbations pendant les cours. Derrière nous au classement, le Brésil et l'Argentine. Un problème de formation des profs, explique Éric Charbonnier, l'un des experts ayant mené l'étude.
Aujourd'hui, nos enseignants sont mal préparés sur cette partie de gérer les classes de niveau de plus en plus hétérogène. Il faudrait vraiment réformer au maximum le volet pédagogique du métier pour qu'il soit préparé à faire face à tous ces défis.
Et cette lacune en formation est confirmée par certains professeurs. Le président du syndicat UNSA nous le confiait cet après-midi. En France, c'est comme si on mettait un pilote sans brevet, tout seul, aux commandes de l'avion.
Un reportage signé Yasmina Katou pour Europe 1.
Le projet de loi de budget de la Sécurité sociale, adopté ce soir à l'Assemblée nationale. Sébastien, budget toujours objet de critique malgré le plan d'urgence pour l'hôpital ajouté par le gouvernement il y a 2 semaines.
Et puis le face-à-face, Trump-Macron. Cet après-midi, les deux hommes se sont retrouvés à Londres pour le sommet de l'OTAN dans un contexte plutôt tendu avec les menaces de guerre commerciale brandies par les États-Unis qui envisagent de taxer une 60aine de produits français pour riposter à la taxe GAFA. Et puis il y a eu ces propos du président français, la mort cérébrale de l'OTAN, pas du tout passée côté américain. Adrien Beck, vous avez suivi cet entretien un peu tendu tout de même entre les deux hommes.
Oui, l'exercice convenu s'est transformé en une conférence de presse improvisée, presque un débat entre les deux présidents. Les sourires sont crispés, Donald Trump parle, Emmanuel Macron réplique. Ah. Le président américain avait jugé ce matin très insultant les propos d'Emmanuel Macron sur l'OTAN. « Je les maintiens », répond le chef de l'État. Autre marqueur de cette tension, cet échange tendu sur l'État islamique.
Nous avons de nombreux prisonniers, combattants de Daesh en Syrie. Certains viennent de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni, ils viennent surtout d'Europe. Je n'en ai pas encore parlé au président Macron. Voulez-vous de gentils combattants de Daesh ? Allez, prenez ce que vous voulez.
Allez, soyons sérieux. Il y a une grande partie des combattants de Daesh qui viennent de Syrie, d'Irak et des alentours. C'est vrai qu'il y a des combattants étrangers venant d'Europe, mais ils représentent une toute petite minorité du problème.
Des divergences affichées au grand jour, même si Donald Trump a reconnu dans les pas d'Emmanuel Macron qu'il était possible de s'entendre avec la Russie. Enfin, le président américain a assuré que Paris et Washington régleront probablement leurs différends sur la taxe GAFA. Un échange de presque 40 minutes qui s'est conclu aussi fraîchement qu'il avait commencé, sans poignée de main.
Adrien Beck en direct de Londres pour Europe 1.
C'est lui qui annonçait le concours chaque année. Bernard Pivot quitte l'Académie.
Il en était membre depuis 15 ans. Il l'a présidé depuis 2014. Nicolas Carreau, bonsoir.
Bonsoir.
L'homme d'apostrophe préfère donc se retirer même s'il était élu à vie.
Oui, à bientôt 85 ans. Bernard Pivot sature un peu le concours. On en parle une fois par an en novembre. Mais c'est beaucoup de travail en fait toute l'année. Des voyages pour les concours étrangers, une réunion de travail tous les mois et bien entendu des dizaines de livres à lire. Pour le président, il était temps de passer la main.
Je laisse la place à quelqu'un de plus jeune que moi, de beaucoup plus jeune que moi, je l'espère. Et puis, par une sorte d'égoïsme bien naturel, quand on prend de l'âge, de retrouver le plein usage de mon temps, notamment l'été, quand il faut lire, au lieu de profiter de sa famille, des vacances, de la mer.
Nicolas, il a été considéré comme un bon président.
Oui, adepte du consensus, mais surtout incorruptible. Il a réussi à redresser l'image du Goncourt que l'on accusait parfois de petits arrangements. Mais Bernard Pivot n'était pas destiné à devenir président du Goncourt. C'est d'ailleurs son élection qui reste son meilleur souvenir.
Le plus grand moment pour moi, ça a été mon élection, parce que c'était inespéré, puisque seuls les écrivains entrent à l'Académie Goncourt, et moi je n'étais pas un écrivain, j'étais un journaliste. Journaliste littéraire, certes, mais journaliste.
Le nouveau président sera élu le 21 janvier prochain. En attendant, c'est la vice-présidente Françoise Chandernagor qui assume la fonction.
Bon, il aura plus de temps, il va continuer à lire tous ses livres.
Bernard, il a le JDD aussi, il a sa chronique.
Puis il reste membre d'honneur de toute façon.
Membre d'honneur, effectivement, mais il ne peut plus voter.
Exactement.
On verra ce qu'il pense du prochain Goncourt. Merci Nicolas Carreau, spécialiste livre d'Europe 1.